Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
De retour dans les grandes gueules du sport, c'est votre deuxième heure. On est ensemble jusqu'à midi, toujours avec Jérôme Pinault, Ludovic Duchesne, Julien Beneteau, Alizé Cornet. On débat, vous savez. Là, ça a été animé quand même cette première heure. Pour moi, ma punchline de la première heure, c'est Julien qui nous dit. C'est un peu fatigant, je suis supporter de l'OM, mais c'est un peu fatigant.
Ah ouais,
on a senti qu'il y avait dans ce râle, il y a une souffrance. Tu veux en parler, Julien ?
Non, une souffrance.
Allonge-toi,
mais
allonge-toi, Julien, pardon.
Non, mais ça me fatigue.
Ouais, vous voyez pas le regard de Julien, là.
Ce qui est extraordinaire, on va pas rentrer dans nos vies privées, mais j'ai passé une semaine près de la commanderie, je passais devant tous les jours. Mais il peut se passer n'importe quoi dans ce club. Il y a un public, il y a des fans tous les jours à attendre la sortie du club. C'est juste incroyable.
Je m'attendais à tout, tu sais. J'ai passé une semaine à la commanderie. J'ai vu deux Herbie mettre un coup de tête.
Ça criait un peu moins fort. En revanche, il y a toujours cette. On l'a vu au stade hier. Hein, et 65 000 personnes, c'est juste incroyable.
Ah oui, ça c'est sûr. La ferveur est toujours là. Dans un instant, la punchline de la semaine. Tiens, Jérôme, elle est signée Jonas Vingegaard qui participe à la Vuelta qui a commencé hier. Cette question, sans Pogacar, ce Tour d'Espagne est-il un tournant dans la carrière du Danois? On n'est pas là pour mettre la pression dans la grande du sport, hein, pas du tout. Et GG remonte le temps à 10h45. On va se replonger dans un record mythique, des records mythiques même, celui Usain Bolt à Berlin. Mais avant cela, j'ai des choses à vous faire gagner, puisque on va faire retentir la cloche.
Oh, ça va casser le temps.
Ah ouais, on a plein de cloches. Ouais, mais ça, c'est comme quand t'étais à l'école.
C'est le stress, ça, ouais.
Voilà. C'est bon, t'es réveillé, Alizé?
Au cas où.
C'est le moment de vous inscrire pour tenter de remporter 1000 euros, soit la totale du coffre RMC de la rentrée, un MacBook Air, une console Nintendo Switch 2, une montre connectée Garmin, un abonnement annuel à Ligue 1 Plus, ou un séjour Lagrange Vacances d'une valeur de 1000 euros, ou même la super totale avec 10 000 euros. Envoyez coffre au 732-16, coffre au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire, les amis. Alors, on compare parfois le tennis à un combat de boxe. Et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure avec Julien qui a voulu mettre un uppercut. Eh bien, ces deux-là, on va
quelle
en parler.
Violence, hein. Ouais. Quelle violence.
Ah ouais, c'est dur, hein, la grande
violence.
Je ne savais pas comment je suis accueilli. C'était pas comme ça avec JC, je crois. Ces deux-là, dont on va parler. Eux, ils veulent déjà en mettre les gants pour écrire leur nouvelle légende.
RMC, le ring des GG.
Il ne faut pas qu'il y ait un tableau d'affichage. Parce qu'il y a balle de match qui s'inscrit en grand sur le tableau d'affichage, sur l'écran géant, pardon. 2-9. 2-9.
7 balles de match.
9-2.
Il va achever son adversaire peut-être dans quelques secondes, mais 9-2. Première dedans. Retour et gagnant. Enfin, il est dedans.
Oh, il finit sur un passif. Deux coups droits, 40-40.
C'est incroyable.
S'achève sur un winner.
Deuxième balle de match à venir et l'arbitre qui demande le silence, évidemment, parce que là, tout le monde est très excité dans les tribunes. Les 15 000 personnes ne tiennent plus en place. Le spectacle est magnifique. 5-4-40-15, balle de match numéro 2 pour Yannick Sinner. Côté droit, elle est bonne. C'est un service gagnant. Yannick Sinner remporte son premier Wimbledon. 4-6, 6-4, 6-4. Chapeau Sinner. Il a vaincu les démons après ce qui s'est passé à Roland. Et il détrône Carlos Alcaraz.
Les commentaires d'Eric Salio. Ah oui, monte en température quand on est sur une balle de match comme ça. C'était les finales de Roland-Garros et Wimbledon. Sinner et Alcaraz, ils sont les deux grands favoris de l'US Open qui débute aujourd'hui à New York. Les deux garçons se sont partagés les 7 derniers grands chelems. Cette saison, une finale homérique, vous l'avez entendu, 5h29 à Roland-Garros, emporté par l'Espagnol. Revanche de l'Italien à Wimbledon. Je vous pose la question, les GG. Faut-il souhaiter une belle cette saison en Grand Chelem, une finale Alcaraz-Sinner à l'US Open? Vous n'êtes pas tous d'accord, enfin vous êtes presque tous d'accord, sauf Ludovic Duchesne.
Ah, quelle surprise.
Qui nous
il y a
dit,
un truc dans les vidéos, je rebelle.
C'est un rebelle en fait, hein.
J'explique que derrière cette question quand même il y a le côté est-ce qu'il faut vouloir une domination comme ça sur le circuit. On vous a posé la question sur le compte X des grandes gueules du sport. Vous dites oui, il faut souhaiter une finale, mais à seulement 51%.
Ah, j'ai des amis.
Vous êtes très partagés. Venez au 32-16 pour en parler. Julien, tiens, toi tu veux une finale Alcaraz-Sinner?
Oui, parce que pour plusieurs raisons, la rivalité entre les deux, elle est en train de naître et elle est en train de grandir. Et donc cette rivalité peut devenir un classique du tennis. Et qu'il faut il faut que les deux meilleurs joueurs que sont Sinner Alcaraz actuel se rencontrent dans les finales des grands tournois pour que cette rivalité classique devienne des légendes. Ce sont les deux plus forts. Et de très loin. Donc pour ça, il faut qu'ils se rencontrent. Et pour une deuxième raison, enfin une autre raison, c'est que il y en aura toujours un en finale. Il y aura soit Sinner Alcaraz. Mais si c'est un de ceux-là contre un autre, la finale elle sera pourrie. L'année dernière, c'était Sinner Fritz. Et Fritz, il est quatrième mondial, c'est pas le dernier perdant de l'année.
Bon, s'il y a Djokovic en finale, quand même. Même s'il est âgé.
Ça peut être très excitant.
Attends, Julien, t'as pas le droit d'oublier Djokovic.
On oublie le meilleur joueur de l'histoire. Pas de problème. Voilà.
Non, mais carton jaune. Le problème, c'est que pour que Djokovic soit en finale. Ouais. Il faut qu'il batte un des deux avant.
Bien sûr, et c'est sur la partie d'Alcaraz.
Et en fait, aujourd'hui, en Grand Chelem, il n'y arrive plus, Djokovic, à les battre. Donc voilà, ils y sont pour rien. Ils sont les deux plus forts du circuit masculin. C'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on voulait voir cette année au Tour de France? On voulait voir Pogacar et Vingegaard en haut d'école, sans leurs coéquipiers, un qui attaque, un qui rentre. Et ben voilà, Alcaraz Sinner, c'est ça.
Et puis le tennis est un de ces sports comme le cyclisme qui a besoin d'identification, des champions du duel.
Bien sûr, un duel.
Le spectacle est beau, mais à la fin, on veut que ce soit les grands qui s'expliquent. C'est sur les grands tournois, c'est comme ça. C'est moi qui suis pas un très grand connaisseur. Je veux voir ces joueurs-là se rencontrer. Peut-être ce sera le seul match que je vais regarder
d'ailleurs, parce que ces deux noms-là
sont retentissants.
Ils nous ont gâtés par le passé, de par la qualité de leur rencontre.
Et là, il reste vraiment aussi sur un petit couac, puisqu'on reste sur un abandon de Sinner à Cincinnati. Donc évidemment, ça peut encore être encore un peu plus excitant. Et puis, les deux, si je dois rajouter une petite chose avant de te laisser la parole, Ludo, pour te défendre.
Ah oui, parce qu'il n'est pas d'accord.
C'est aussi deux personnages complètement différents et qui divisent vraiment. C'est-à-dire que moi, je suis un pro, vous le savez que je ne suis pas un pro Sinner, évidemment. Je suis un pro Alcaraz et j'aime le voir le malmener et je comprends que les autres, voilà, j'ai envie de voir ça pour qu'on soit bien divisé puis qu'on puisse s'expliquer que ça chauffe un peu quoi.
Ludo, t'as un point à récupérer sur le sondage en gueule du sport, mais
moi, je suis pas passé.
Je prends l'open de... Non, mais la pression, Elisée. L'Open d'Australie, Djoko a battu Alcaraz, donc je pense que ça peut évidemment se reproduire. C'est un joueur inouï, pour en prendre une expression
c'est très à la mode de
notre temps. Je vais pas vous vendre que ça peut pas arriver. Ils sont 1 et 2, donc là on n'a rien inventé quand on dit ça. Après c'est vrai qu'il y a des joueurs qui doivent prendre des revanches. Il y a Zverev, il y a Medvedev qui sont aussi pas loin à chaque fois d'y arriver, même si Medvedev est un peu dans le désert en ce moment. T'as les petits jeunes Mensik et Fonseca qui à un moment donné vont bien percer. Et puis toute la bande là des jeunes qui ont le même âge, les Musetti, les Shelton, attention.
Il a gagné à Toronto.
Il est capable peut-être chez lui d'aller percer, d'aller faire quelque chose. Bon, Arthur Fils n'est pas là malheureusement, il fait partie de cette bande. Donc moi j'ai envie de ces gars-là.
C'est la diversité aussi. Tu veux voir
On a eu un big four pendant.
Tu veux pas que ce soit imposé comme ça.
Non. Même si c'est beau, leur rivalité, bien sûr, les deux, en plus, ils sont potes et tout, on a eu déjà des très grands matchs entre les deux, mais moi, Rune me fait rêver aussi, il y a des joueurs comme ça.
Mais est-ce que la rivalité du Big Four, c'est pas ça qui va rester dans les annales de l'histoire de ce sport? Au final, si tu demandes de la variété.
Mais justement. Pour ça que le Big Two, ça ne suffit pas. Et entre d'autres.
Non, mais alors, déjà, on dit Big Four, mais déjà, ils étaient. Enfin, ils étaient trois. La rivalité entre Rafa et Roger, entre Rafa et Djoko, notamment, c'est quand même les deux rivalités qui ont fait vibrer les spectateurs et le monde du tennis pendant des décennies. Oui, mais. Les joueurs qui se sont joués le plus, c'était Rafa et Roger et Rafa et Novak. Novak et Roger se sont joués un peu moins.
Ouais.
Mais bon, et tout ça pour dire que si tu demandes de la variété, ça risque de retirer un match de légende supplémentaire dans cette rivalité incroyable qui est en train de se construire, comme le disait Julien. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas envie de rentrer à fond les ballons dans cette rivalité qui est déjà en train de devenir légendaire,
comme les Federer Nadal, envie de voir.
Parce qu'au final, est-ce qu'on a envie de voir Shelton en finale de l'US Open? Moi, je te pose la question.
Les Américains, oui.
Les Américains, oui.
Ah, d'accord. Ouais, les Américains. Alors, est-ce qu'on a envie de voir?
Attendez. Je défends la corporation. génération de journalistes. mais pour le coup, c'est un peu terrible ce que vous dites, Alizé, Julien aussi, le côté. Ah ouais, mais si.
On est sectaires,
si,
nous.
Si jamais il n'y en a pas un des deux en finale, ça va être un peu.
T'as
un
envie
peu
de voir Musetti.
On est déjà dans le truc de
voilà,
se dire
aussi,
que
j'adore
s'il en manque un, ça va être moins bien.
Donc mais au mérite, de toute façon, ce sont les deux meilleurs joueurs. Ce sont les deux meilleurs joueurs du circuit à l'heure actuelle. Donc ce serait mérité, ce serait pas un hold-up.
Ça bougera peut-être, ça, Alizé. C'est pas non plus écrit dans le marbre.
Ça, je suis d'accord. Mais il faut que les autres, il faut que les autres step up vraiment. Et surtout, Alizé, elle commençait à le dire. C'est que pourquoi on a envie de les voir aussi, c'est parce que les mecs, quand ils se jouent, ils font des matchs, c'est monstrueux les matchs qu'ils font l'un contre l'autre.
Nous, c'est ça qu'on veut
c'est
voir.
C'est incroyable. Non. Chacun, ils ont un. Pourtant, ils ont. Alors, Alcaraz est plus créatif.
Toi, tu te lasses pas du caviar. Tu veux du caviar si on t'en propose, si
peut-être
c'est possible.
Dans,
non, mais franchement, ils m'ont bluffé.
Pas Cincinnati, Julien.
Non, mais.
Pas, et même pas Wimbledon, j'ai envie de dire.
Ah, si, c'était gros. Sinner, c'est monstrueux ce qu'il fait.
Ouh, tu es drôlement exigeant, Lucas.
Ouais, mais c'est monstrueux ce qu'il fait Sinner.
Non, mais si je compare avec Roland Garros, où là, c'était vraiment exceptionnel.
Mais on peut pas comparer.
Ou à l'US Open.
Non, mais attendez, Ludo, on peut pas prendre Roland Garros comme référence.
Ouais.
Parce que la barre est trop haute, on n'arrivera jamais à atteindre cette qualité.
La finale de Roland Garros, c'est Wimbledon 2008, Federer-Nadal.
Ah, c'était grandiose.
C'est Djoko-Rafa de l'Australian Open.
C'est peut-être les trois plus grandes finales. Mais là, on parle des matchs de l'histoire. Donc,
c'est pour ça que je te dis que Wimbledon, c'est quand même un cran.
On peut pas prendre ça comme
quand ça voit les deux autres, le palmarès des deux autres, ceux-là ont déjà livré un match qui va rester dans l'histoire.
Exactement.
C'est le tournoi.
Et Julien, je retiens ce que tu dis. Tu dis, moi, ces deux-là, ils m'ont bluffé. C'est-à-dire que tu t'attendais pas aussi, il y a aussi ce phénomène un peu de surprise, finalement, de sidération de ces gars-là. Ils étaient on les attendait pas à ce niveau-là déjà. C'est-à-dire, comme tu le disais, Alizé, le Big Four vient à peine de s'arrêter. Enfin, pas tous d'ailleurs.
Mais
on a déjà les mecs.
On les attendait numéro 1, numéro 2 mondiaux, pas de souci. Mais qu'ils soient aussi fort et qu'ils arrivent à produire une qualité de jeu aussi importante juste après, et Djokovic n'a pas encore arrêté, mais juste après Federer-Nadal, et de nous dire, à tel point que pendant la finale de Roland-Garros, il y en a beaucoup qui se sont dit, qu'est-ce que ça aurait donné contre un Nadal de la grande époque. Et donc, qu'ils soient capables d'arriver à faire ça.
Alors qu'ils ont 22 et 23 ans. Hein,
ouais. Et que les trois autres, c'est les trois plus grandes de l'histoire de tous les temps. Ça, ouais, moi, ils me bluffent, les mecs.
Et comme le disait Julien, ce qui s'est passé à Wimbledon, alors certes, en termes de qualité de jeu, c'était peut-être un peu en dessous, mais psychologiquement, ce que Sinner, il a réussi à faire, et moi aussi, je suis plutôt une pro Alcaraz. Hein. D'ailleurs, j'ai envie d'une finale Alcaraz-Sinner à l'US Open, uniquement si Alcaraz gagne, évidemment.
Mais
ce qu'a fait Sinner à Wimbledon, de perdre le premier set, et ensuite d'arriver à arracher son premier Wimbledon en 4-7, alors qu'il avait encore tous les démons de Roland Garros, on sait qu'il en a souffert.
Rappelle pas contre Dimitrov, il est pratiquement dehors.
Il a été un peu aidé, effectivement. Là, il a eu un petit coup de pouce.
Mais moi, je partage votre envie, votre passion, etc. Mais c'est vrai que j'ai aussi envie de voir un Musetti qui est un joueur, un dernier romantique du tennis. J'ai envie de le voir.
Parce que tu vois, les gens sont quand même jamais satisfaits. Moi, c'est ça que je retiens dans le truc, parce que, par exemple, dans le tennis féminin, à un moment donné, il y a eu un manque de hiérarchie.
Exactement.
Les gens se plaignaient parce qu'on voyait que des filles différentes en finale de Grand Chelem. Là, maintenant, on voit les mêmes. Oh, c'est trop les mêmes. On en a marre. Les gars, stop.
C'est exactement ça.
Le point commun entre ces grands tournois du Grand Chelem et des grands tours, par exemple, si on peut faire un parallèle avec le sport que je connais le mieux,
c'est le cyclisme.
C'est qu'à la fin, pas sûr. c'est qu'à la fin, c'est quand même les plus grands qui ressortent du chapeau et on a envie de ça quelque part. Quand on n'est pas un pur spécialiste, là tu parles de Musetti, tu parles de Fritz, tu parles de Shelton, mais tu vas sur le trottoir à New York ou à Paris et tu dis il y a l'US Open. Quels sont les joueurs de tennis que vous connaissez ou les joueuses?
Mais moi,
les deux.
Moi, je note que Julien et Alizé ont juste oublié Djokovic. C'est tout. Moi, ils ont carrément zappé le truc et je me dis.
Parce qu'il n'est pas favori.
On a au 32-16, on a Novak qui nous appelle. Julien qui nous appelle. Pas Julien Beneteau,
il est partout,
mais un fan
ce
de
Julien.
Tennis qui nous appelle. Salut, Julien.
Salut les GG.
Bon, tu nous entends, c'est un débat passionné, évidemment. Faut-il souhaiter une finale Alcaraz-Sinner? Comment tu te positionnes?
Alors, franchement, on a cette finale. Alors, je comprends ce que dit Alizé quand elle dit qu'on est gourmand si on commence à se plaindre et qu'on veut autre chose. Parce qu'effectivement, Wimbledon, ils sont affrontés cette année, c'était une belle finale. À Roland-Garros, je n'en parle même pas, c'est une finale d'anthologie. Par contre, si on a autant apprécié pour moi Federer et Nadal par le passé, c'est qu'à un moment donné, il y a un troisième homme, évidemment Novak Djokovic, qui est venu s'intercaler.
Okay.
Là, j'ai un peu peur quand même d'une hégémonie. J'aimerais bien ce troisième homme. Alors, vous les avez cités, les Fritz, les Zverev, les Draper, les Shelton. Pourquoi pas? Et à la limite, s'il n'y a pas ce troisième homme, c'est pas grave. Il faut quand même que de temps en temps, un de ceux-là vienne chercher un grand chelem. On se rappelle de Wawrinka qu'on a pris 3, Del Potro, Cilic. Il y avait quand même des fois une petite porte qui s'ouvrait pour un autre. Là, j'ai un peu peur.
Ce sont des bons arguments.
Non, bien sûr, on te dit pas, on te dit pas que on veut voir à chaque fois. De toute façon, ils vont pas pouvoir gagner les quatre grands chelems chaque année. Il y a forcément une.
Enfin là, s'il y en a un des deux qui gagne, c'est-à-dire sur les deux dernières saisons, ouais, ils ont gagné les 8, hein, un ou deux. Hein.
Ah mais on est reparti sur des bases stratosphériques.
On est là-dessus sur un
finalement. Je suis bien le tennis.
Peut-être que c'est trop finalement.
On est là-dessus sur dans toutes les disciplines sportives. Lorsqu'on a un grand événement de type grand tour ou grand chelem, c'est souvent les mêmes. Et dans tous les sports maintenant. Alors, dans tous les sports, dans la prépa, on est capable de lever le pied pour certains événements pour revenir au top sur les grands. Et les grands ne font plus que d'un objectif, que des grands tournois ou des grands événements, et c'est de plus en plus le cas dans beaucoup de sports.
Mais pour revenir sur ce que disait Julien, le troisième homme en la personne de Novak Djokovic, il n'est pas arrivé tout de suite hein, dans la rivalité Roger-Rafa. Ça a mis un peu de temps. Là, il ne faut pas oublier que Alcaraz et Sinner, ils ont 22 et 23 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que ça va peut-être arriver dans les années qui arrivent. Mais pour l'instant, profitons quand même de cette rivalité à deux qui nous donne un spectacle hors du commun.
Tiens, on va l'écouter Yannick Sinner, interrogé par Eric Salio à New York, parler de sa rivalité avec Carlos Alcaraz.
Nous avons des styles différents, mais aussi dans notre comportement, sur le court et en dehors. Nous sommes simplement différents, mais en même temps, c'est génial à voir, car cela rend les choses très intéressantes. La seule chose que nous avons en commun, c'est que nous nous entraînons très dur, nous faisons des choix pour le tennis. C'est désormais notre priorité absolue et c'est normal car ce sont de très petits détails qui font la différence. Small details
make the difference. Vous savez, moi, il y a un truc qui me fascine dans cette rivalité. C'était au lendemain de la finale de Wimbledon. Yannick Sinner avait dit dans une interview, je crois, que lui, dans sa préparation de la saison, il regardait énormément de matchs de Carlos Alcaraz. Son entraîneur, je crois, qui avait dit ça. C'est peut-être la personne dans le monde qui regarde le plus de matchs d'Alcaraz. C'est-à-dire que même eux, ils sont hyper auto-centrés sur eux-mêmes, en fait, aussi pour passer à un niveau supérieur.
Comme s'ils savaient qu'ils avaient un peu de marge contre les autres joueurs, mais que contre l'un et l'autre, ils en avaient beaucoup moins. Donc, ils essayent vraiment d'analyser les failles de l'un et de l'autre.
Après, attention aussi, c'est que dans leur confrontation, j'ai envie de dire, heureusement que Sinner a gagné Wimbledon, parce que Alcaraz est quand même largement devant.
9-5.
À 9-5.
Pour le coup, j'ai quand même l'impression que Sinner est un peu plus fort ces derniers temps. Et sur dur, il est clairement le favori.
Sur les dernières confrontations, les 7 dernières confrontations, 6-1 pour Alcaraz, effectivement, mais c'est plus serré. Et on sent que Sinner. Et en plus, je vous rappelle qu'il y a la place de numéro 1 mondial également, qui se joue à l'US Open.
Piment, tout ça.
Donc ça rajoute quelque chose encore en plus. Est-ce qu'on a le résultat du débat sur le compte X? Oh, Maxime Abolin, mon producteur, me dit 50-50. Ça veut dire qu'en même temps, Ludo a récupéré son petit point. Donc
il a peut-être tenté. Je ne l'ai pas trouvé très très bon. Mais...
C'est grâce à Julien, l'auditeur.
Ça n'en attendait pas moins. Alizé. Et il faut se rappeler, je crois qu'Alcaraz était devenu numéro 1 mondial à l'US Open. Et il semble, de mémoire, devant Casper Ruud. Là, il peut redevenir numéro 1 mondial aussi.
Sinner a une approche de l'US Open cette année un peu plus calme que l'année dernière, quand même.
Ouais, exact. C'est moins de choses. Casper Ruud, par exemple, sur terre battue, à un moment donné, on se disait, voilà, il a fait des finales de Roland. Et là, depuis un ou deux ans, il baisse. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à tenir, alors que les deux autres.
Et on n'a pas parlé de Titi Pass.
Titi Pass pas du tout
la semaine prochaine.
On a l'impression qu'il y en a deux sur la pente ascendante et ensuite les autres sont un peu sur une pente descendante.
Attendez, quand même, arrêtons-nous tous une seconde sur cette blague de Jérôme Pinault. Titi Pass à la trappe. Vous avez la référence. Titi Pass passé à la trappe. Il me semblait un peu exact. D'ailleurs, on va aborder la punchline dans quelques instants, de peut-être se dire que la punchline était là. Non, quand même.
Évidemment qu'elle était là.
On va parler plutôt de la Vuelta. Sans Pogacar, le Tour d'Espagne peut-il être un tournant dans la carrière de Vingegaard? On vous attend au 32-16 dans les grandes gueules du sport sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Jérôme Pinault, Ludovic Duchesne, Alizé Cornet, Julien Beneteau. Voilà, certains ici ont envie de voir 1000 finales Alcaraz-Sinner. Ils vont pas s'enlacer.
Pas de quoi tu parles.
Ouais. Non, pourquoi pas. Mais on regardera évidemment. C'est vrai qu'on se lassait pas de Fener.
Si tu veux un Shelton Mensik à 22h dimanche soir en finale de l'US Open, tu m'appelles et puis tu feras un débrief parce que je regarderai autre chose.
Et quand Shelton aura gagné, il y aura des gens sur les Champs-Elysées pour fêter ça. Tu sais, on se dit attends, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui nous a échappé. On va parler dans ce qui nous reste de l'émission. Les GG remontent le temps. Dans quelques instants, il y a 16 ans, la foudre tombée sur Berlin. Les records de Bolt sur 100 et 200 mètres. Est-ce imbattable? On va vous poser la question. Et puis, en fin d'émission, inscrivez-vous. Il y a les jeux du sport. Vous savez, c'est votre quiz. Vous pouvez participer avec nos grandes gueules. Ce week-end, on vous fait gagner une enceinte portable Mino 10 de Lexon. Pour participer et remporter votre enceinte portable, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 732-16. Sport au 732-16. Mais d'abord, en vélo, l'imbattable Pogacar n'est pas là. Mieux vaut en profiter.
RMC, la punchline GG.
Waouh, ça fait peur ça. La Vuelta s'était lancée hier d'Italie. Oui, c'est pas banal. Philippe Sen a remporté au sprint la première étape arrivée à Novara. Mais l'attraction de ce Tour d'Espagne, c'est la présence de Jonas Vingegaard, deuxième des deux derniers Tours de France, loin derrière Pogacar. En Espagne, l'ogre Poggi n'est pas là. J'espère donc montrer que je suis le meilleur, a expliqué Vingegaard avant le départ. D'un côté, c'est toujours bien de courir contre Tadej. De l'autre, c'est bien aussi quand il n'est pas là parfois. Le Danois n'a plus gagné de Grand Tour depuis son doublé Tour de France 2022-2023. La question que je vous pose, les GG, c'est cette Vuelta est-elle un tournant dans la carrière de Vingegaard, âgé de 28 ans, 32-16 pour participer. Il y a beaucoup de choses à évoquer parce qu'on a eu des dominations parfois aussi dans vos sports, on en a parlé il y a quelques instants. Vous n'êtes pas forcément tous d'accord. Jérôme, évidemment, j'ai envie de t'entendre. Vingegaard, c'est maintenant ou jamais, là, il a la pression sur cette Vuelta,
c'est le tournant. C'est le tour ou jamais pour savoir quelle direction va prendre sa carrière, ça c'est sûr.
Pourquoi ?
Parce que il est dans une équipe qui a quand même en son sein Matteo Jorgensen, par exemple, et Vingegaard n'a pas le choix que d'affirmer son leadership dans cette équipe avant, sinon de prendre le risque de se voir déposséder de ce statut-là, parce que son équipe fait beaucoup de sacrifices autour de lui, elle le laisse chez lui, il s'entraîne beaucoup, il a besoin de son temps en famille. On se rappelle des prises de parole de son épouse au début du Tour de France qui n'étaient pas très très bien comprises, et notamment par les coureurs au sein de l'équipe.
Il avait critiqué l'équipe.
De l'autre côté, dans cette équipe UAE sans Poggi, il y a quand même Almeida et Ayuso. Et s'il est battu par ses lieutenants,
qui sont des on va dire des coureurs plutôt chapeau 2 dans la hiérarchie mondiale.
Chapeau 2, non. S'il n'était pas chez UAE, il ne serait pas leader chapeau 2. Ça voudrait dire quand même que cet écart, si énorme était-il en juillet, plus de 5 minutes, il aurait été certainement comblé par ces deux garçons-là s'il est battu sur la Vuelta. Et pour le coup, ça fait de Vingegaard un coureur de second chapeau, comme tu dis, de Ligue Europa. Il joue plus en Ligue des Champions. Ça veut dire que cette équipe va tout de suite se mettre à la recherche de la succession. Et des jeunes pousses, il y en a. On parle de Jarno Vidar qui est chez Lotto aujourd'hui, qui est en pourparler dans cette équipe Visma Liesebike. Ça peut vite déstabiliser le Danois.
Il pourrait carrément peut-être perdre sa place aussi à l'intérieur de l'équipe.
Moi, je suis manager général de chez Visma. Si je gagne pas cette Vuelta-là en dominant, Je cherche un nouveau leader.
Le risque d'assez à autre chose. Déclassement de Vingegaard, tu y crois, Julien, s'il gagne pas? C'est la victoire au rien, là.
Bah oui. Il court pas beaucoup. Il y a énormément de moyens qui sont mis autour de lui, que ce soit au Tour de France ou là, l'équipe qu'il présente pour la Vuelta.
C'est quasiment la même, hein.
Voilà. C'est une équipe de Tour de France.
Quand je dis les moyens, donc il y a les moyens humains de par ses coéquipiers qui, dans certaines équipes, seraient les leaders. Des moyens financiers, j'imagine qu'il n'a pas un salaire, voilà, donc c'est pour gagner des grands tours. Ok, il y a Pogacar, tu fais le maximum, tu perds, mais là, il ne peut pas perdre contre les lieutenants de Pogacar. C'est impossible, autrement, effectivement, il y a un déclassement, c'est inévitable. Donc oui, mais il se met tout seul dans cette situation aussi, par 2-3 déclarations, par un style de...
Pourtant, il ne dit pas grand-chose, lui.
Non, mais voilà, où c'est un peu à l'ancienne, c'est un peu à la Indurain où on le voyait pas, et puis dans sa manière de courir, et puis la comparaison avec Pogacar elle est terrible parce que l'autre c'est du panache, il gagne, lui il attaque jamais, il peut pas attaquer, dès qu'il attaque c'est sur 100 mètres, il se fait contrer, c'est terminé, c'est toujours les mêmes schémas. Donc oui, il faut vraiment qu'il gagne et qu'il mette un coup de poing sur la table.
Alizé, quand il y a une grande domination comme ça dans un sport, quand il y a une opportunité d'exister, faut pas se rater.
Il y a pas le droit à l'erreur, et cette sensation elle est terrible. Moi je vais faire un parallèle avec ce que je connais. connaît le mieux, c'est-à-dire le tennis. J'ai l'impression que Vingegaard, c'est un peu Federer à Roland-Garros, quoi. Là, il y a pas Rafa.
Avec Nadal, ouais, qui dominait.
Sur terre battue, Rafa qui avait gagné, voilà, on va pas le rappeler.
En fait, c'est tellement irrationnel.
Elle a dit, on va pas le rappeler parce qu'elle se rappelait plus du chiffre. On la connaît l'histoire, on la connaît la tactique.
Je crois que le vrai chiffre, c'est 100.
On va pas vous le citer. En général, c'est que tu te rappelles pas du blaze du mec. Je vous le présente plus.
Donc, avec Rafa qui laissait que des miettes finalement à ses adversaires à Roland-Garros, une fois qu'il a été sorti, c'était en 2013, du coup, là, j'espère ne pas me tromper. L'année où Roger a gagné.
On m'a contredit.
Deux erreurs à viser, je pense que je vais me taire.
C'est quoi ton sport?
Le cyclisme, ça
c'est ça, voilà. Allons-y.
Non, tout ça pour dire que les attentes sur les épaules de Vingegaard sont énormes. En fait, lui, il va se donner zéro droit à l'erreur. Est-ce que ça va créer un peu de tension? Sûrement. Est-ce que c'est un tournant dans sa carrière? C'est sans aucun doute. Pour lui, c'est vraiment le moment où il n'a pas le droit de perdre. Il faut qu'il s'impose sur cette épreuve pour montrer que, ben voilà, il est encore là au plus haut niveau et surtout, il n'aura peut-être pas 36 autres occasions.
Je suivrais Alizé si c'était le Tour de France, parce que si Pogacar n'était pas là sur le Tour, effectivement, il serait dans l'obligation totale de gagner et je pense d'ailleurs qu'il le gagnerait ce Tour. Après, vous nous dites, oui, mais alors, il a toute une équipe derrière lui, etc. Excusez-moi de rappeler qu'il a gagné deux fois le Tour de France et que quand il s'aligne sur un tour, ne serait-ce que d'une semaine, comme l'Algarve, l'Adriatico, etc.,
il le gagne.
Ouais, donc, oui, le seul coureur qui peut le battre aujourd'hui, c'est Pogacar. Cette saison, faut attendre, il est beaucoup tombé aussi Vingegaard ces dernières années.
La marge entre lui et Vingegaard et lui et Pogacar, elle est énorme aujourd'hui.
Il rate deux étapes.
Et je pense que les deux jeunes garçons,
la marge entre Vingegaard et les autres derrière, si on enlève Pogacar, elle a l'air aussi
énorme.
C'est un deuxième sans contestation.
Voyons dans les trois prochaines semaines. Je suis pas sûr que la marge soit aussi énorme avec Almeida.
Tu verras qu'il n'y aura pas photo.
Eh ben, on verra.
Oh, j'ai hâte de voir ça.
Il y aura deux sujets sur la Vuelta. Il y aura la domination de Vingegaard, ça c'est une certitude, parce que s'il ne domine pas ce tour-là, il va être forcément rattrapé par des coureurs au sein de son équipe.
Jorgensen, t'as vu ce qu'il fait au Tour de France? Moi, je suis pas du tout inquiet.
Il va être contesté. En tant qu'équipier, il déclare sans arrêt qu'il veut ce rôle-là.
Jérôme, je rappelle que la dernière participation de Jonas Vingegaard au Tour d'Espagne, c'est son coéquipier Sepp Kuss qui avait gagné.
Mais
quand même,
il était largement au-dessus Vingegaard. Ils l'ont laissé gagner parce que il avait fait les trois tours.
Jorgensen, à la sortie de Paris-Nice, déclare sur le journal L'Équipe et à nos confrères d'RMC, je veux un jour tenter de gagner un grand tour, mais pour le moment, Vingegaard est le leader chez Visma et The Bike. Ça veut tout dire.
Il n'y a pas photo.
C'est-à-dire que te loupe pas. Et la deuxième chose sur cette Vuelta, c'est que les deux prétendants derrière lui sont de la même équipe et qu'il va falloir faire un choix dans cette équipe UAE entre Ayuso le rebelle qui n'a pas envie du tout de faire le job et d'être équipier et Almeida qui a tout donné à Pogacar depuis le début de sa carrière, qui pour une fois est leader sur un grand tour parce qu'il a chuté au Tour de France. Dans ces deux choix-là, ça peut encore profiter à Vingegaard. Mais
sans doute son plus grand adversaire, Almeida.
Et il sera pas aidé par Ayuso.
Hein. C'est ça. Ayuso va la jouer solo. C'est pour ça que je pense que Vingegaard va...
qu'il doit gagner, mais il doit dominer cette Vuelta faire apparaître les doutes au sein de son équipe. On parlait de Sian Uytebroeks, la jeune pépite belge qu'on a oublié pendant un moment à cause d'un problème d'artère iliaque. Il est revenu, il marche tambour battant. Il va falloir que derrière on fasse de la place pour ces jeunes-là. Et si le gars qui a 28 ans te montre pas qu'il est capable de dominer les équipiers de Pogacar sur un tour, la Vuelta est certainement
les
le troisième grand tour dans la hiérarchie. Ah ouais, mais ils sont équipiers.
Ils sont quand même très très.
Donc à un moment donné, on va dire, et toi,
forcément, ça va créer une pression supplémentaire sur les épaules de Vingegaard. Ça va être énorme.
Mais en fait, il y a énormément de pression là, même parce que
c'est pour ça qu'on a appris.
Moi, je me demande à quel point lui va être imperméable à cette pression, parce qu'effectivement, le Tour d'Espagne, c'est pas le Tour de France. Il y a pas autant de médias, mais malgré tout, la thématique qu'on a là, c'est le sujet dans toutes les rédactions vélo, je pense, dans le monde. Si Vingegaard va être à la hauteur, et puis on a aussi appris il y a quelques jours qu'il renonçait à disputer au championnat du monde, Vingegaard, et donc donc à ne pas croiser la route de Pogacar finalement tout de suite. S'il est sur la Vuelta aussi, non mais il sera championnat d'Europe en France, dans Mardèche. Mais s'il est pas sur les championnats du monde aussi, et s'il va sur la Vuelta, c'est parce qu'il veut peut-être aussi pas se confronter à Pogacar, c'est parce qu'il veut remontrer ça quelque chose.
Alors ça, c'est pas tellement un problème.
Non, mais ça, c'est en fait qu'il se met la pression lui aussi finalement.
Ça, c'est pas.
Il veut se montrer quelque chose.
De se créer un. Moi, c'est ce qu'on a évoqué ça pendant le Tour de France. Moi, le conseil que j'aurais à lui donner, s'il arrive plus à dominer Pogacar, ce qui semble une évidence aujourd'hui, prends un autre programme, va gagner des courses. C'est un grand, grand talent. C'est un énorme champion, Vingegaard. On aime ou on n'aime pas, c'est un grand coureur. Va te faire un autre palmarès. Qu'il évite les courses ou l'autre, quelque part, ça semble logique. Sauf que tu as des choses que tu gagneras plus. Et notamment le titre de championnat du monde. Le titre de champion du monde, sur un parcours qui convient à Pogacar, il doit convenir à Vingegaard. Il n'y va pas. Il doit avoir en tête la Drôme, parce que si Pogacar est champion du monde à Kigali,
hein.
il laisse un peu entendre qu'il ne sera pas forcément au départ.
Du coup,
une semaine après. Bah, il fuit la rivalité, mais il prend des tôles.
Mais pour le coup, c'est intéressant ce que tu dis, Julien. Est-ce un tournant dans la carrière de Vingegaard, hein? Je vous rappelle cette Vuelta, alors que Pogacar n'est pas là. Tu disais tout à l'heure, moi je regarde le vélo en ce moment aussi parce qu'il y a cette rivalité Pogacar-Vingegaard. C'est aussi important pour le vélo. Peut-être que Vingegaard gagne la Vuelta, parce que ça voudrait dire qu'on aurait un garçon tout seul au-dessus de tout. Est-ce que ce serait pas un mal pour le cyclisme aussi, parce que là c'est un gars qui a une Vuelta,
si
ça va pas être un rival de Pogacar.
Si ce n'est pas Vingegaard, ce sera Ayuso ou Almeida, et tout le monde dira bah oui, mais tous les meilleurs sont dans la même équipe, donc ça sert à rien de regarder.
Julien, tu veux regarder la Vuelta parce qu'il y a Vingegaard, tu veux voir s'il veut réagir pour cette histoire là aussi,
puisque tu l'aimes bien aussi, tu vois bien.
Non, honnêtement, Vingegaard, pour moi il a un tournant, c'est vrai, voilà, il faut qu'il gagne. Mais Il y a déjà eu des dominations dans le vélo extrême. Alors le problème, c'est que ces dominations extrêmes, elles ont été un petit peu entachées. Je parle même pas d'Armstrong, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Mais après, moi, je peux pas en vouloir à un mec.
C'est d'être au-dessus de.
Ouais. Et puis en plus, aujourd'hui, Pogacar, s'il a un rival ou qu'il n'est pas un rival, la manière dont il court, là où il va se confronter. Parce que lui, il y va, il dit, bah, attends, moi, je vais aller à Paris-Roubaix, je vais aller battre Van Der Poel chez lui.
Il fait tout le calendrier.
Chapeau, quoi.
Peut-être que je te coupe, mais t'as le point de vue d'un ancien athlète de haut niveau. Donc, sais les efforts que ça demande d'être à ce niveau-là. Mais pour le spectateur lambda, qui a envie de regarder quelque chose d'excitant, il a envie de voir une rivalité, il a envie de savoir que choses ne sont pas écrites à l'avance.
Tu disais tout à l'heure pour le tournoi, le circuit WTA, que les gens étaient à une époque un peu, grognon parce qu'il n'y avait pas de supériorité.
À l'époque, maintenant.
Regarde ce qui s'est passé cet été. Puisqu'on a la réponse. Pogacar a commencé à faire la tronche à une semaine de l'arrivée.
Parce qu'il dominait trop, presque.
Parce que son équipe lui a demandé d'arrêter d'ultra-dominer parce que ça jasait et que les spectateurs commençaient à.
C'est ce que je te dis. C'est ce que j'ai dit.
Donc si on en arrive là.
Parce que ça rappelait des mauvais exemples aussi, Jérôme.
Mais le problème, c'est que moi, là, je la rejoins.
Il y a vraiment eu des conseils pour qu'il y ait toutes les étapes.
Je la rejoins à 2000%. C'est-à-dire que là, c'est hyper frustrant pour un athlète qui est au-dessus.
Mais nous,
si le mec, il est clean, pourquoi on l'empêcherait de gagner?
Mais
c'est un truc de fou, quoi.
Mais nous, ça nous est arrivé au tennis.
Et moi, je pense que Vingegaard, pour finir sur Vingegaard, si Vingegaard ne gagne pas de cette Vuelta, ou s'il la gagne avec si peu d'écart
sur les lieutenants,
ça va confirmer que Vingegaard n'est plus le Vingegaard d'il y a 3 ans, et donc logiquement le meilleur coureur du monde va lui mettre une trempée sur la plus difficile course du monde.
Il ne doit pas simplement gagner, il doit,
pour moi, il doit dominer.
Survoler.
Si on veut garder un espèce de suspense entre les deux pour le prochain Tour de France, voilà, on en parle, hein, c'est ça déjà. Si on veut garder un peu de suspense pour pouvoir dire il va y avoir des matchs, il faut qu'il lui mette une tôle. S'il n'y en a pas, on va commencer vraiment à douter.
De toute façon, la France, il y va pour ça. Il y va pour s'imposer, pour de nouveau.
Honnêtement, je pense que c'est supériorité.
C'est
ce qui va se passer.
Mais moi, je pense aussi que c'est ce qui va se passer.
Je ne sais pas si c'est propre à la France ou quoi que ce soit, mais par exemple, donc c'est le public.
Ah, je te confirme que c'est propre à la France, les critiques et les doutes sans arrêt.
Tu ne l'avais pas laissé terminer.
Non, mais sur Pogacar, et donc du coup, l'équipe qui demande. En 2009, Nadal, il avait déjà gagné 3 ou 4 Roland. Donc le public commençait à se lasser. Quand il joue Söderling et qu'il voit que Söderling peut aller chercher Nadal, ils sont pour Söderling. Mmh. Et d'ailleurs, Nadal ne l'avait pas compris ce jour-là, quand il a perdu, etc. L'attitude du public, alors après, il est revenu, il a gagné et le public l'a adulé parce que ce qu'il a fait, c'était monumental. Mais à un moment donné, Et c'est donc c'est un peu propre à la France.
La comparaison, les Français n'aiment pas les gens qui gagnent pas et n'aiment pas les gens qui gagnent
sauf
trop.
S'ils sont français. sauf s'ils sont français. Ouais. Ça a gêné personne que Pauline Ferrand-Prévot domine tout le monde sur le tour féminin. Ah,
bon, exactement.
Ça a
gêné personne. Mais personne ne se pose des questions alors qu'elle fait exactement ce qu'a fait Pogacar. Hein. Elle est au VTT.
Ouais, une fois.
Elle gagne Paris-Roubaix, elle gagne le Tour de France.
Alors on a un problème avec la domination, c'est vrai, peut-être.
Des autres, quand c'est la France, ça marche. Quand Julien Alaphilippe gagnait toutes les classiques, il n'y avait pas de problème, ça
nous faisait
pas
de problème.
On est plus des poulies d'or, effectivement. C'est vrai qu'il y a d'ailleurs à l'étranger, ils hallucinent sur ça. Quand ils nous regardent,
les titres de la Gazzetta dello Sport l'année dernière, quand Pogacar. La Gazzetta dello Sport.
Ah oui, d'accord.
C'était Pogacar devant, c'est génial, c'est magnifique. Il fait la même auto et il se fait critiquer. C'est comme ça. La Gazzetta dello Sport.
Oh là là, non mais c'est incroyable. Mais attendez, quoi, on est en Italie là, les gars, c'est ça? Bon, allez. Ah oui, alors qu'on parlait de la Vuelta, mais ça commence en Italie, donc on y est. Très intéressant de vous écouter sur Vingegaard, un tournant de sa carrière. Visiblement, c'est quand même ce que vous pensez. Dans un instant, on va remonter le temps, les amis. Marty, on va prendre la DeLorean et on va revenir. Il y a 16 ans, la foudre s'abattait sur Berlin. Usain Bolt écrasait les records du monde du 100 et 200 mètres. À tout de suite dans les grandes gueules du sport, sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Julien Beneteau, avec Ludovic Duchesne, Alizé Cornet, Jérôme Pinault. Ah, ça débat pas mal hein, ce matin, franchement, même hors antenne. Je peux vous dire que ça envoie surtout les sujets. Dans un instant, on va ouvrir votre vestiaire, les amis. Alors qu'à l'US Open, tiens, notre numéro 1 français, Arthur Fils, va manquer un deuxième grand chelem consécutif sur blessure. Vous allez nous expliquer à travers vos expériences à quel point il est difficile de revenir finalement après une blessure. L'appréhension, la précipitation, le bon moment, la pression, la solitude. C'est un sujet très complexe qu'on veut évoquer avec vous pour un petit peu mieux comprendre. On veut vous entendre. Mais d'abord, il y a 16 ans, Stade Olympique de Berlin, je vous resitue le truc, la foudre est tombée deux fois au même endroit.
De faux départ avec Usain Bolt qui fait un départ moyen mais qui revient très très bien dans l'allure. Usain Bolt qui est devant déjà qui a fait la différence. Tazan Gay qui s'accroche mais c'est un super pas. Usain Bolt champion du monde.
Berlin a retenu son souffle, c'est parti, et c'est quoi Usain Bolt est parti comme un missile. Usain Bolt qui est déjà en tête alors qu'à l'extérieur Crawford a résisté un petit peu. Allez Usain, allez mon vieux, Usain Bolt dans la dernière ligne droite, stratosphérique, attention sur le chrono, et 19 ans, il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait.
Et d'ailleurs, c'était même mieux que 19-20, puisque ça avait été corrigé à 19-19 pour Usain Bolt. Commentaire de Patrick Montel sur France Télévisions qui avait dit un truc qui m'avait marqué, moi. Usain Bolt dépasse les limites humaines. Je suis pas très bon en imitation, hein, les gars. Désolé.
C'était parfait.
Et les commentaires de Fils de Châteaufort et Jeff Pérez, vous avez écouté sur le 100 mètres tout à l'heure. C'était il y a pratiquement 16 ans, jour pour jour. Usain Bolt choquait le monde entier. Un an après ses records du monde, hein, au jeu de Pékin, rebelote. Encore plus impressionnant cette fois-ci. Il tape pas sur son torse avant de franchir la ligne. Il va au bout, 9,58 sur 100 mètres, 19,19 sur 200 mètres. Ses records sont-ils inaccessibles, Julien? Tu me disais déjà que ce commentaire t'avait marqué.
Ouais, c'est des courses que j'ai revues souvent sur Internet.
Ah et
sur le 200 mètres, je me souviens très bien, Patrick Montel. C'est ce qu'on aime dans le sport, c'est quand les journalistes et les consultants font passer les émotions par rapport aux images et aux performances. Et je trouve que là, c'est parfait. Et donc, ça sublime encore plus l'exploit de Bolt. Pour revenir sur les records, j'espère pas. Il faut pas qu'ils soient imbattables. Il faut qu'un joueur...
16 ans, hein, ça tient depuis 16 ans.
Ça tient depuis 16 ans. Je pense que sur 100 mètres, ils sont loin. Parce que j'ai regardé un petit peu. Celui qui s'est approché hors Bolt, Gatlin, il y a 10 ans.
Pas tant que ça. Hein. Regarde le chrono qu'il fait. 9,69.
Oui, mais il l'a fait il y a longtemps. Et en fait, il y a 10 ans, en 2015, 9,74. C'est-à-dire que depuis 10 ans, il n'y a personne qui a fait mieux que 9,74 sur 100 mètres. Donc,
Blake, je crois qu'il a dû faire...
Mais c'était avant 2015.
Non, mais ce qui est intéressant, Julien, ce que tu dis...
Depuis 10 ans, il n'y a pas d'athlète. En revanche,
ceux qui se sont rapprochés, c'est des garçons qui ont été un peu rattrapés par la patrouille aussi.
Aussi.
Mais en 200 mètres...
C'est ça qu'on dit, j'espère.
Bien sûr.
On va mettre les pieds dedans quand même.
Bien sûr, évidemment.
Si ce record n'est pas battable, c'est qu'un souci.
Ben voilà. C'est-à-dire qu'on a...
Mais non,
il a raison. Pourquoi
Pourquoi ce n'est pas battable alors?
Parce que c'est l'un de mes plus beaux grands idoles, le Bolt.
Attendez, il n'y a jamais eu rien du tout sur Usain Bolt. Hein, il faut le dire aussi. Évidemment,
mais c'est pour ça que
les performances de dingue. Il reste deux ou trois records qui ne sont pas battus depuis 30 ou 40 ans. C'est fait par les athlètes de la RDA France.
Et Florence Griffith-Joyner sur le 100 mètres féminin.
Qui est morte.
Oui, ouais, bien sûr.
Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut se parler. Par contre, sur 200 mètres, il est en 19-19, mais il y a Lights, qui est jeune, l'Américain, qui a déjà couru en 19-31. Et il n'y a pas si longtemps que ça en 2022, donc il n'y a que 12-13 centièmes.
C'est plus
donc,
jouable sur 200.
C'est plus jouable sur 200, donc là, tu te dis, ok, et à la limite, tant mieux.
Après, tu as d'autres facteurs qui tant sont mieux. Importants, c'est le temps de réaction, c'est le vent qui peut faire à talent égal, faire des grosses différences.
Le départ n'est pas bon hein, sur le 100 mètres, ouais, disait notre commentateur.
C'était à cause de sa taille, à cause de 1m95, le type.
Je regardais là, il y a une étude de biomécanicien qui disait que humainement, le temps qui semblait le inaccessible, c'était 9h30. Mais qu'on pouvait encore descendre sous les 9,58. Alors évidemment, il faut le talent avant, ça parle en premier. Mais qu'il y avait encore des facteurs entourants qui pouvaient quand même permettre à certains de franchir ces zones-là. Et on disait que sur Bolt, s'il avait eu un temps de réaction parfait, il aurait fait 9,48 par exemple.
D'accord.
Donc déjà, on était en dessous. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est des records qui peuvent être battus.
Les biomécaniciens disent que Bolt avait forcément un départ moins bon, avec un temps de réaction moins bon, parce que sa qualité première due à sa taille, c'était d'avoir une grosse allonge. Bolt, pour un 100 mètres, c'était 41, 41, 42 foulées contre 45 aujourd'hui. C'est un garçon qui a fait 44,7 km/h de pointe, ce qui n'a jamais été égalé. C'est-à-dire que c'est son petit défaut, s'il peut encore en avoir un, c'était son départ, parce que sa grande taille. Mais après, quand il allongeait... Alors évidemment qu'on espère que ça puisse l'être, parce qu'on n'a pas envie de tomber dans ces vieux records tenus par des athlètes sombres. Maintenant, il va falloir que génétiquement l'athlète soit le même, ce qui n'est pas gagné, et que les conditions soient les mêmes. Berlin, rapide, temps
la
magnifique ce jour-là.
De Berlin,
les conditions étaient toutes réunies. Mais pour un record, il faut ça aussi.
Il y a un jeune Australien qui est sur
cette la concurrence.
Hein, sur, à 16-18 ans, il est.
Il y avait aussi quelque chose qui était beaucoup dit autour de ces records-là, c'est qu'à l'époque, Usain Bolt travaillait en Jamaïque, dans un pays où la concurrence, elle était là tous les jours à l'entraînement.
Bien sûr,
c'était un groupe où les meilleurs coureurs du monde étaient jamaïcains.
Mais là où ces records, je pense, sont impactants, et Alizé, on en a un petit peu parlé en préparant ce débat, mais c'est aussi par la personnalité de Bolt. C'est un garçon à part, au-delà des temps, c'est un garçon que t'as croisé aux Jeux Olympiques, c'est ça? T'étais à Pékin, toi, Alizé?
Ouais, j'étais avec à Pékin en 2008.
C'est vrai, vous étiez ensemble.
La dernière fois qu'on s'est vu, c'est aux Olympiques de Pékin.
Croisé,
le petit, le peuple,
tu sais. Dans quel état?
T'es pas aussi charismatique que Bolt.
Non, mais je sais pas si ça...
J'allais moins vite au buffet.
Je sais pas si ça.
Maintenant, j'y vais avec beaucoup de puissance.
Je sais pas si ça a joué dans ses résultats sportifs, mais
de t'avoir croisé.
Non. D'être aussi charismatique. En tout cas, il avait une aura et un charisme. C'était vraiment. Je me souviens le croiser au stand des céréales dans le CEF de Pékin, et c'est vrai qu'il y avait quand même quelque chose qui se dégageait de lui. Déjà, il était immense. Enfin, il est immense. Hein,
il est.
Ouais. Et vraiment, il y avait cette aura et puis cette admiration de la part de tous les athlètes.
Tu l'avais vu après, c'était après son record du monde et son titre sur le 100 mètres, là où il se tape le torse.
Non, c'était avant, parce que c'était tout début des Jeux.
Mais il avait déjà un truc quand même, il avait déjà un record du monde. Hein,
il avait déjà un record du monde. Et puis voilà, c'est comme si on sentait finalement que quelque chose allait se passer. Il dégageait quelque chose de lui, une confiance, une sorte d'aura, c'est vraiment le mot adapté.
Pour avoir partagé ces moments-là avec toi, c'était le personnage avec Roger.
Que tu avais envie de
dans
croiser.
Le village, au village que tu avais envie de croiser.
Avec Kobe,
quand aussi, ils sont pas venus au village, ils sont passés au village, mais ils n'étaient pas allés au jeu au village.
Moi, j'ai fait 2012, c'était exactement ça. C'était le Team USA au basket. Moi, je croisais Kobe Bryant, le joueur de la cérémonie d'ouverture, c'est fantastique.
Comment tu nous dis ça, toi? Ouais, je croisais Kobe Bryant.
Non, il l'a dit avec des yeux
Il m'a demandé un selfie, Kobe, je lui ai dit non.
J'ai demandé une photo. Richard Gasquet me dit, je te demande une photo si tu veux. Je lui ai dit, il y va. Et Kobe Bryant a refusé, et en fait.
Oh non!
Mais j'en ai pas voulu, parce qu'après, on a vu, il se baladait dans le village, et tous les 50 mètres, il y avait quelqu'un qui lui demandait, donc il pouvait pas. Bolt, il était porte-drapeau. Et on fait la cérémonie de Arthur, pour rebondir sur ce que dit Alizé, on fait le tour d'honneur et on pouvait se barrer après la cérémonie d'Arthur. Et donc moi, je décide de partir pour rentrer au village. et France-Jamaïque, avec les, l'ordre alphabétique, la Jamaïque finissait son tour quand moi je vais pour sortir du stade. Et là, en fait, dans la ligne droite de l'autre côté, je passe devant la Jamaïque, ouais. Et là, je prends une photo comme ça de Bolt parce qu'il la tire, il était vraiment magnétique. Et puis, un autre truc sur ses performances sportives, les records du monde, c'est les Jeux Olympiques, la finale du 100 mètres en 2008, la finale du 200 et les championnats du monde. C'est-à-dire qu'en plus, il gagne.
Ouais,
c'est pas le meeting de Lausanne ou le meeting de Charletti. Ouais. C'est qu'il fait les records du monde en finale des Jeux Olympiques et des championnats du monde. Donc là, en plus, pam, ça, il rajoute un tampon à sa légende.
Ah non, mais ça, je suis complètement d'accord. Même si on aime bien Charletti. Hein,
oui, on a rien contre Charletti.
Pour répondre à la question,
Charletti.
Non, j'espère pas aussi que ces records soient complètement imbattables. Ce serait inquiétant presque quelque part.
Ouais, mais c'est sûr. Bah, après les records, voilà, on dit toujours ils sont faits pour être battus. Hein, mais
et ça prendra le temps que ça prendra. Ouais. Au final, il y a des records qui sont battus des décennies après, mais il y a forcément un mec sur Terre à un moment donné avec les conditions réunies, avec la prépa effectuée, qui va y parvenir.
Souvenez-vous trois cette référence-là. Alors à chacun son niveau, évidemment, du jour de grâce, tu vois, du jour où tu sens que
ça va se
tout
passer,
est aligné. Et
forcément.
Lui, en plus de tout cela, avec son talent immense, il faudra les mêmes conditions pour le prochain.
Et si on avait dit que le record de Boubka à la perche serait battu un jour et qu'ensuite il serait battu 50 fois par
semaine,
on dirait, bah, en fait, il y a un gars qui fait exprès pour gagner un peu plus d'argent, de mettre un centimètre à chaque fois.
On pensait qu'Eddy Merckx, il était unique.
Il est unique.
C'est les génies.
Allez, d'ailleurs, ça me fait, en parlant de légende, ça me fait me souvenir qu'on aura une légende tout à l'heure, le Stephen Branch, Nicolas Batum, vous savez, l'ancien capitaine de l'équipe de France.
En tant que légende.
Aussi. Allez, entre 13h et 15h, Nicolas Batum avant l'Eurobasket qui débute pour les Bleus, qui joue d'ailleurs en prépa contre la Grèce ce soir. Dans quelques instants, dernière heure, pleine de nouveautés, le vestiaire, les GG sur le buzzer et les jeux du sport. Inscrivez-vous au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.